Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant mort et résurrection de Jésus-Christ. Est-ce la vérité ou est-ce un mythe? Nous arrivons à l'étude numéro 17 et notre thème sera évaluer le coût. Saint Jean, chapitre 15, verset 17 jusqu'au chapitre 16, verset 4. Il est dit: ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses. Pourquoi? Mais tout simplement à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissaient pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui m'a haï, haï aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre ne faisait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans aucune cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, c'est-à-dire l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient, ou quiconque vous fera mourir, croira même qu'il rend un culte à Dieu. C'est ce que font les musulmans. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mes chers amis, les premiers versets de Saint Jean chapitre 15 que nous avons étudiés au CD précédent, ils laissent entrevoir des aspects glorieux de la condition de chrétien. L'inimitié avec Jésus-Christ, la fécondité spirituelle, l'association empreinte d'amour avec les autres sarments, la prière efficace, Ces privilèges sont source de joie et d'espérance immense. Mais le fait d'être chrétien ne comporte-t-il pas des aspects pénibles? Tout est-il bonheur et lumière, alors que Christ lui-même fut un homme de douleur qui marcha dans la vallée de l'ombre de la mort? Partagerions-nous ses joies, mais pas ses larmes? Est-il vraiment seul à devoir porter la croix? Voyez-vous, se poser ces questions, c'est déjà reconnaître qu'une grande partie du mouvement évangélique fait preuve d'une regrettable légèreté d'esprit. On nous ressasse souvent que la foi chrétienne s'accompagne de bonheur sans aucun accroc, de victoire sans aucune tribulation, de témoignage sans aucune lassitude. On nous encourage à croire que le chrétien déborde sans cesse d'une immense joie et il succombe très rarement au découragement de la défaite et qu'il vit dans une ambiance de constante excitation et il ne lutte jamais contre l'ennui, qu'il aime et il est aimé, qu'il ne se heurte pas obligatoirement à la persécution, à l'ostracisme, à la haine, au rejet, et qu'il a confiance en soi-même, et qu'il vit dans l'enthousiasme, et il ne sait pas ce que c'est que la terreur, que la solitude, le doute, qu'il est au fond comblé et satisfait, mais surtout pas à la suite d'un renoncement à lui-même et d'une mortification quotidienne, pas du tout. Chers amis, ce n'est pas que ces promesses soient fausses, oh non, ou qu'elles soient dénuées de fondement, non plus, mais elles déforment un peu beaucoup la vérité en promettant uniquement la couronne sans la croix. On ne peut pas avoir que la couronne et ne jamais avoir la croix à porter. Chers amis, nous nous complaisons facilement dans le rôle de sarment fécond, bien uni au cep, mais nous pensons peu, très peu à la discipline de l'émondage. Cette opération qui est nécessaire, qui est entreprise par le jardinier divin que vous connaissez. Jésus ne passe pas les aspects difficiles sous silence. En entrant dans la maison de Zachée, le salut apporte avec lui le principe de la restitution, selon Saint Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Si Jésus raconte la sublime parabole du Fils prodigue et qu'il souligne la patience et le pardon du Père, selon Saint Luc chapitre 15, c'est-à-dire 15, versets 11 à 32, il raconte aussi des paraboles pour encourager les hypothétiques disciples à calculer le coût. À calculer le coût. Qu'est-ce que ça coûte? Saint Luc chapitre 14, notez versets 25 à 35. Et vers la fin de Saint-Luc au chapitre 9, l'auteur présente trois petites anecdotes mettant en scène des personnages se proposant avec enthousiasme de suivre Jésus. Pour les replacer dans notre contexte actuel, ce seraient donc des gens rapidement baptisés le plus vite possible, sans rien, on peut dire, sans rien connaître, pas un iota de connaissance de leur vie précédente, et ils sont admis dans l'Église en vitesse. Ils sont poussés à témoigner et intégrés dans l'évangélisation. Mais dans les trois cas, Jésus, il pose des conditions précises et il place la barre assez haut pour tester le sérieux du niveau d'engagement. Voyons cela de plus près. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai bien partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Oh, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Toi, suis-moi. » Et l'autre répond, « Mon Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi tout de même d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répond, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Saint-Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Il se produit quelque chose de comparable en Saint Jean chapitre 15, versets 17 à 16, c'est-à-dire versets 17 jusqu'à la fin du chapitre 15, et ensuite prenez encore le chapitre 16 jusqu'au verset 4. J'espère que je vous ai bien expliqué la chose. Donc, après avoir mis en avant les aspects glorieux de la condition du disciple, Jésus prend la peine d'indiquer maintenant le coût à prendre en compte. Les chrétiens ne partagent pas seulement les épreuves qui sont le lot commun à toute l'humiliante déchue, à toute humanité, comme vous le savez, qui a été déchue. Donc, chers amis, cette humanité déchue doit aussi faire face à des difficultés qui font partie intégrante de la condition chrétienne. Ces tribulations tiennent à l'opposition inévitable avec l'esprit du monde, en prenant fait et cause pour Jésus. Le chrétien doit donc s'attendre à rencontrer la même haine que celle qui est vouée à son Seigneur. Chaque génération de chrétiens est exposée à trois difficultés particulières, et nous allons voir cela de très près. Ils doivent s'attendre à la haine du monde. » Notez Saint Jean, chapitre 15, versets 17 à 25. Cette haine, cette colère, elle s'appuie sur plusieurs raisons importantes. Premièrement, la haine du monde contraste fortement avec l'amour qui existe entre les membres du peuple de Dieu. Voyez-vous ce que je vous commande, nous dit Jésus. C'est quoi ? C'est de vous aimer les uns les autres. Donc, si le monde vous haït, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Chapitre 15, versets 17 et 18. Le chapitre 15, le verset 17, marque une transition radicale. Mais il la juxtapose des versets 17 et 18. Elle met donc en relief le contraste. Le contraste saisissant entre la nature du monde, c'est-à-dire au sens où Saint Jean l'entend, et la nature de la communauté chrétienne. Pour le monde, il est tout naturel de haïr. Pour les chrétiens, il est naturel d'aimer. C'est pas pareil. La formulation « Si le monde vous haït, si le monde vous hait » n'exprime pas un doute quant à cette haine, mais cela signifie plutôt « Puisque le monde vous hait vraiment ». Et ce principe recouvre différents domaines. C'est-à-dire l'évangile selon Saint Jean présuppose que les chrétiens s'aimeront les uns les autres. Ça devrait être ainsi. Ce thème est d'ailleurs tellement important que dans la première épître de Saint Jean, l'amour est l'un des trois tests permettant de s'assurer de la validité d'un christianisme professant. Notez 1er épître de Saint Jean, chapitre 3, versets 10 à 24, et le chapitre 4, versets 7 à 21. S'il vous plaît, notez toutes ces indications, c'est important. Les deux autres tests sont l'obéissance morale au commandement de Christ et l'acceptation des doctrines justes fondamentales de la foi chrétienne. Les trois tests s'imbriquent donc étroitement les uns dans les autres. Les chrétiens doivent donc faire très attention à l'amertume et au ressentiment qui ronge, ou à la haine qui s'installe au sein du corps de Christ, et remplacer le plus rapidement possible ces sentiments négatifs par l'amour. Le groupe soi-disant chrétien, qui ne témoigne aucun amour ni aucun intérêt pour autrui n'est tout simplement pas chrétien du tout, quelle que soit l'orthodoxie de toutes ses doctrines. Le passage ne dit pas que le monde est totalement incapable de manifester de l'amour. Car les parents païens, ils aiment aussi leurs enfants païens. Il y a des hommes et des femmes totalement incroyants qui arrivent même à tomber amoureux pour un certain temps. Mais le principe demeure. Pour le monde, il est tout simplement naturel pour le monde de haïr. Le monde se compose donc de gens qui n'ont jamais accepté la suprématie de Christ ni connu l'amour de Dieu. Par définition, ces gens sont centrés sur eux-mêmes ou sur les dieux qu'ils se sont créés. Il leur est impossible d'aimer Dieu ou son peuple, à moins de se débarrasser de leur faux système de valeurs et de faire face à la vérité et de voir leur position et leur rôle à la lumière de la souveraineté de la grâce de Dieu. La haine du monde ne se voit nulle part mieux que chez ceux qui se considèrent comme étant des libéraux, mais qui se montrent extrêmement anti-libéraux dès qu'il s'agit des absolus chrétiens. Ils font donc preuve d'une grande tolérance et d'une remarquable bonté en présence d'opinions diverses, de différents styles de vie et même de différentes pratiques stupides. Mais si un chrétien déclare que le christianisme est exclusif, comme l'a clairement affirmé Jésus, ou qu'il y a des absolus moraux parce qu'ils se fondent dans la nature de Dieu, comme l'enseigne la Sainte Bible, ou encore qu'il existe bel et bien un enfer, mais un enfer qu'il faudrait surtout éviter, et un ciel qu'il faudrait essayer de gagner. Alors ces prétendus hommes tolérants tiennent des propos les moins mesurés pour faire taire le pauvre fou où le monde est. Deuxièmement, le monde est haï donc parce que lui et l'Église s'excluent mutuellement et qu'il ne supporte pas le refus de se conformer à lui. Par exemple, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Chapitre 15, verset 19, évidemment de Saint Jean. C'est très proche de ce que nous dit Jacques. Jacques, qui est le demi-frère de Jésus, il dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde, il se rend ennemi de Dieu. » Chapitre 4, verset 4. Par définition, le chrétien est supposé être sous la seigneurie de Jésus-Christ, alors que le monde ne reconnaît pas cette seigneurie-là. L'Église et le monde vont donc dans des directions totalement différentes. ils obéissent à des ordres très différents et trouvent leur bonheur dans des allégeances distinctes. Dans un langage énergique, Saint Jean souligne l'opposition fondamentale entre le monde et l'Église en écrivant « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, mais eux, ils sont du monde. » Et c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Mais nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute absolument pas. Premier épître de Johannes, de Saint Jean, chapitre 4, versets 4 à 6. Ce n'est donc pas l'attitude d'un esprit borné qui prétendrait « J'ai raison et toi tu as tort », ni une façon de se retrancher derrière un exclusivisme défensif, à la fois hautain et têtu, refusant toute discussion avec qui que ce soit et réfractaire à toute correction. Au contraire, c'est reconnaître que si Dieu s'est vraiment révélé en Jésus-Christ, alors tout ce qui ne peut se concilier avec cette vérité ou refuse obstinément de l'écouter est forcément dans l'erreur. C'est donc un raisonnement de pure logique qui explique l'opposition absolue entre le vrai croyant et l'homme du monde. Le fait que l'Église et le monde s'excluent mutuellement, cela n'est pas une raison suffisante en soi pour que le monde haïsse les chrétiens. Sa haine, elle découle du ressentiment qu'il éprouve contre tous ceux qui refusent d'adopter sa perspective. Ne pensons pas qu'il y a une seule sorte de monde. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est un fait. Mais il y a de nombreuses sortes d'erreurs. Et dans ce sens, on peut dire qu'il existe plusieurs mondes, ou plus exactement, que le monde présente plusieurs visages assez hideux. Un système, par exemple, comme a été les nazis en son temps, cela est fondamentalement hostile à Dieu, exactement comme le communisme autrefois, à l'autre bout du spectre politique. Il a fait usage de la violence et comment des millions de millions en sont morts innocemment pour contraindre les hommes à adopter ses valeurs et ses normes. Les nazis et les communistes se détestent réciproquement, mais les deux haïssent les chrétiens authentiques et tous les deux s'efforcent de le plier pour se conformer à quelque chose de totalement antichrétien dans son essence. Il n'est donc pas besoin d'évoquer des gouvernements totalitaires comme la Corée du Nord pour découvrir des exemples de monde à qui l'identité particulière du chrétien déplaît absolument. une mondanité grossière, un matérialisme cupide, des groupes immoraux. Tout cela cherche à défendre leurs intérêts égoïstes où ils prônent d'autres styles de vie qui sont bibliquement indéfendables. Tous s'unissent donc contre le chrétien qui se lève et qui déclare fermement et avec amour. Ainsi parle le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes souvent davantage enclins à nous conformer au monde par peur du dédain, que par crainte de la force brutale. Et il n'en va pas du tout de même pour nos frères et sœurs des pays où la liberté religieuse n'existe absolument pas. Nos tentations sont donc d'autant plus traîtresses, plus insidieuses et même plus dangereuses. Nous ne nous rendons pas toujours compte que nous sommes au fait absolument piégés. On présente parfois la réussite et la richesse comme étant le résultat inévitable d'une vie chrétienne absolument victorieuse et merveilleuse, un conte de fées. Le croyant imprudent qui est séduit par cette hérésie finit pas, il finit par ne plus distinguer sa quête de Dieu de sa quête des biens matériels. L'égoïsme, tout cet égoïsme monstrueux de notre monde se déguise en accomplissant des choses qui plaisent au monde, telles que la licence, une liberté totale, le schisme en orthodoxie, l'action en onction, plutôt l'action que l'onction. La pression, elle augmente jusqu'à ce que le chrétien se sente totalement coupable de ne pas appartenir à tel ou tel groupe. Et ceux qui sont à l'intérieur du groupe mettent tellement en valeur la conformité que ceux qui sont à l'extérieur, et ils se sentent dénigrés. Dans certaines contrées, les jeunes croyants sont soumis à de très fortes pressions de la part de leurs pères parce qu'ils refusent la drogue et les relations sexuelles avant le mariage. Donc, on peut dire que la pureté est devenue l'exception et non pas la règle. Et dans ce domaine, les chrétiens commencent à ressentir la haine du monde. Et celui-ci ne cesse de crier. Toi, fais exactement comme nous. Oui, fais comme nous. Chers amis, à l'époque où les anabaptistes et les mennonites étaient souvent persécutés, aussi bien par les protestants que par les catholiques, et ils devaient élever leurs enfants dans un climat d'insécurité permanente, ils se posaient la difficile question du baptême de leurs enfants. Ils avaient renoncé au baptême des nourrissons et admis qu'une personne ne doit être baptisée qu'après une rencontre personnelle avec Jésus-Christ par la foi, c'est-à-dire une foi qui est caractérisée par une obéissance sans aucune faille. Mais à quel moment baptiser leurs enfants? Fallait-il baptiser un enfant qui, bien qu'encore bébé, semblait avoir une foi salutaire, solide en Jésus-Christ? C'est pas dit. Ou fallait-il lui demander de patienter quelques années encore? La réponse qu'ils apportèrent à cette question peut ne pas plaire à tout le monde. Elle a cependant le mérite de montrer qu'ils étaient très très conscients de l'antagonisme fondamental entre l'Église et le monde. Dans les cas d'enfants qui affichaient une foi authentique, ils repoussèrent le baptême jusqu'à ce que ces enfants-là soient assez grands, non seulement pour résister aux tentations du monde et de déjouer les pièges du conformisme, ressentir la haine du monde envers eux à cause de leur refus de se conformer à lui, mais qu'ils soient aussi capables de se détourner totalement, volontairement et spirituellement de toutes les tentations et de tout ce qu'elles offrent au monde chrétien, entre guillemets. Aujourd'hui comme autrefois, les jeunes croyants ont besoin de reconnaître que le monde et l'Église exclus mutuellement et que le monde se déchaîne contre tout, absolument contre tout, ce qui refuse de se conformer à lui. Troisièmement, le monde nous hait, le monde nous haït parce que il a haï Jésus-Christ. Donc, si le monde vous hait, vous déteste, sachez qu'il a détesté Jésus-Christ avant vous. Notez chapitre 15, verset 18 de Saint Jean. Mais il n'est pas seulement question d'une priorité d'ordre chronologique. C'est toute notre identification à l'enseignement de Jésus et notre soumission à sa seigneurie qui sont en jeu. C'est pour ça, oui, c'est pourquoi Jésus poursuit en déclarant: souvenez-vous, oui, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Chapitre 15, verset 20. Au cœur de ce verset se trouve la propre parole de Jésus, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il l'avait prononcée pour la première fois, lorsqu'il avait lavé les pieds, rappelez-vous, il a lavé les pieds de ses disciples au chapitre 13, verset 16. Ils étaient ainsi posés en exemple pour eux. Oui, lui, le maître, le rabbi, Jésus, il avait accepté d'accomplir la tâche méprisée de laver les pieds d'autrui. Et comme le serviteur n'est pas plus grand que son maître, les disciples devraient adopter cette attitude humble de servir les uns envers les autres. Ici, Jésus cite les mêmes paroles dans un autre contexte. Il dit, si le serviteur n'est pas plus grand que son maître, et si le maître a souffert de l'opprobre du monde, eh bien ses disciples doivent s'attendre, hélas, à une persécution semblable. D'ailleurs, si un serviteur devait se demander en vertu de quel principe il doit souffrir, il n'y a qu'une réponse à lui donner. C'est que parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si celui qui aimerait devenir serviteur de Jésus estime pourtant qu'il est juste de s'épargner l'opposition et même la persécution, eh bien, il manque considérablement d'humilité. Il se trompe donc sur la place qu'il occupe par rapport à son maître. Car Jésus dit pratiquement la même chose ailleurs, que le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni que le serviteur plus que son seigneur. Il suffit donc au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison, tels que vous et moi? Saint Matthieu chapitre 10, versets 24 et 25. Donc, appartenir à Jésus-Christ, c'est attirer sur soi une partie de la haine qui est dirigée contre Christ. Dans un certain sens, cette pensée, elle a quelque chose de très rassurant. Ne pensons pas que la haine du monde est orientée uniquement sur nous personnellement. Personnellement en raison de ce que nous sommes par nous-mêmes, bien loin de là. Car c'est notre identification à Jésus-Christ qui suscite toute cette opposition. Si nous devions être appelés à souffrir, la pensée précédente devrait donc nous permettre de suivre l'exemple des apôtres qui avaient été roués de coups et qui se sont retirés de devant le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le saint nom de Jésus. Notez Actes chapitre 5, verset 41. À l'inverse, quand nous sommes bien reçus au nom de Jésus, quand la communauté des croyants nous félicite teint, et que des frères et sœurs dans la foi nous expriment leur approbation et qu'ils nous entourent d'amour, il est bon de se rappeler que tout comme nous sommes persécutés pour l'amour de Jésus, nous sommes aussi aimés à cause de Jésus. Les chrétiens ne sont pas haïs ni aimés, ne sont pas acceptés ou rejetés pour eux-mêmes, mais uniquement à cause de Jésus-Christ. Mais pourquoi le monde haït-il tellement Jésus? Quel mal a-t-il donc fait? Durant sa vie dans la chair, il n'a dévalisé aucune banque. Il n'a ni violé, ni assassiné, ni calomnié personne. Il était connu pour son pouvoir de guérison. Ses paroles étaient de vérité. Son intégrité était à toute épreuve, et pour la fermeté et la constance de son amour qui était sans commune mesure. Donc dans ces conditions-là, s'il vous plaît, pourquoi les gens du monde haïraient-ils Jésus ainsi que ses disciples après lui? Les deux principes suivants vont nous l'expliquer. Donc, mes chers amis, quatrièmement, et nous terminerons, le monde, il haït parce que son péché est mis à nu. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a jamais faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, ainsi que moi et mon Père. Chapitre 15, versets 22 et 24. Jésus ne dit pas que s'il n'était pas venu, s'il n'avait pas parlé ni accompli ses miracles, les hommes auraient été totalement innocents. Plusieurs facteurs s'élèvent donc en faux contre une telle déduction. À titre d'exemple, l'évangile selon saint Jean présente le monde vers lequel Jésus est venu comme un monde pécheur et rebelle déjà bien avant la venue de Jésus-Christ. Jésus a été envoyé comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chapitre 1, verset 29. Notons également que l'antithèse au verset 22 n'est pas complète. Le texte se compose en deux parties, écoutez bien. Premièrement, si Jésus n'était pas venu et n'avait pas parlé, le monde ne serait coupable d'aucun péché. Il ne serait pas coupable. Deuxièmement, par contre, maintenant, son péché Il est inexcusable. Essayez de comprendre. Une antithèse rigoureuse aurait voulu que la deuxième proposition soit « Mais maintenant, le monde est devenu coupable de péché. » Cette antithèse qui rendrait pratiquement Jésus responsable du péché du monde, elle est totalement rejetée. Car la venue de Jésus ne rend pas le monde pécheur, mais lui ôte toute excuse à son péché. Donc cela suggère que le monde était pécheur déjà bien avant la venue de Jésus. Un examen plus attentif du contexte laisse penser que le péché en question est bien particulier. Dans le verset qui précède, Jésus, il dit à ses disciples, « Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Notez Saint Jean chapitre 15, verset 21. Et il ajoute aussitôt, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur aurais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont absolument aucune excuse de leur péché. » Verset 22. Le péché dont le monde s'est rendu coupable, c'est celui de ne pas connaître Dieu, alors que celui-ci se révèle de la façon la plus spectaculaire et la plus explicite en Jésus-Christ. En effet, le monde rejette donc cette révélation et ce rejet, il se transforme en haine et aussi en persécution. Depuis la chute, le monde pêche contre Dieu, mais jusqu'à la venue de Jésus-Christ, la révélation parfaite de Dieu, le monde ne pouvait absolument pas pécher contre une telle lumière. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient de ce fait point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Notez chapitre 3, versets 19 et 20. Les disciples ne provoquent pas par eux-mêmes la colère du monde, car ils ne peuvent contester les mauvais penchants du monde avec suffisamment de force. Mais Jésus, il est si pur que les hommes souillés n'ont que deux possibilités. Soit accepter d'être lavés, soit de détester sa pureté. Et c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, le monde ne vous il peut vous haïr, mais moi, il m'a déjà haï, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres au monde sont absolument mauvaises. Chapitre 7, verset 7. Donc, chers amis, la révélation en Jésus-Christ est absolument nette. Elle est pure et éclatante, que le monde est à court d'excuses quand il se trouve confronté. Ces excuses n'avaient déjà pas grande valeur avant la révélation de Dieu en Christ. Mais maintenant, elles ne valent plus rien du tout. Voyez-vous, Jésus ne fait pas qu'exposer le péché, il en est également le seul remède au péché. Quelle excuse peuvent avancer ceux qui se détournent d'une telle lumière et quelle espérance leur reste-t-il? Quelle espérance face à Jésus? Eh bien, le monde ne peut adopter que deux attitudes, soit de se détourner de son péché par la grâce de Dieu et ainsi de cesser d'être monde au sens où Saint Jean l'entend, ou soit vouer une haine à Jésus et à son Père. Chapitre 15, verset 24. Bref, le monde haït parce que son péché a été mis en lumière. Il en a toujours été ainsi. Pourquoi croyez-vous que Caïn a tué son frère? Mais parce que son œuvre était mauvaise et que celle de son frère était juste. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 12. Le contraste est rendu encore plus flagrant avec la venue d'une pureté aussi absolue que celle de Jésus-Christ. Donc, pour venir à Jésus et de le confesser comme Sauveur et Seigneur, il faut un cœur contrit et des genoux qui ploient devant lui, c'est-à-dire être capable d'être assez humble pour se mettre à genoux. On ne peut pas se présenter devant Christ si on ne ressent aucun besoin, aucune indignité et aucun péché. On ne peut s'avancer la tête haute comme un partenaire dans l'œuvre du salut. Ça, c'est impossible. En effet, la lumière de l'Évangile dans la personne de Jésus, elle met en lumière notre cœur sale, notre cœur corrompu et notre cœur faux vers celui qui est seul et qui seul peut rendre toute chose pure et nouvelle, c'est-à-dire Jésus-Christ. Au moment où s'opère cette révélation de soi, de deux choses l'une, ou bien la grâce de Dieu intervient et le pécheur implore la miséricorde divine pour être purifié et pour avoir la vie, ou bien il s'en prend à la lumière qui a exposé sa souillure. Ça, c'est la réaction du monde et elle est la raison principale de sa terrible haine. Dans une certaine mesure, aujourd'hui, les chrétiens suscitent les mêmes réactions. Nous ne nous représentons nous-mêmes en Jésus-Christ, de même que nous reflétons la lumière de Jésus-Christ dans ce monde enténébré. Donc une lumière qui dénonce son venin et qui attise sa haine implacable, ça c'est notre association avec Christ et ça c'est notre conformité croissante à lui qui nous attire la même haine que celle dont le monde abreuve Jésus-Christ. L'apôtre Paul a très bien compris, lui qui écrivait ce passage pathétique, il a dit: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répond par nous Oui, en nous, en tout lieu, de l'auteur de sa connaissance. Donc, chers amis, nous ne sommes en effet pour Dieu, nous sommes le parfum de Jésus-Christ parmi tous ceux qui sont sauvés et parmi tous ceux qui périssent. Aux uns, nous sommes une odeur de mort, donnons la mort. Aux autres, nous sommes une odeur de vie, donnons la vie. Et qui est suffisant pour ces choses-là? Notez 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Le témoin chrétien diffuse le parfum de Christ. Il le diffuse par sa simple présence et par ses paroles, oui, par sa conduite et par son témoignage. Mais ce parfum subtil que les uns perçoivent comme étant l'odeur d'une vie nouvelle qui éclot au printemps de Dieu et qui communique aux autres une puanteur de cadavres en décomposition. Dans ce sens, tout comme Christ, les chrétiens ne peuvent que opérer une division parmi les êtres humains. Quel réconfort d'apprendre au chapitre suivant que le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous aide dans notre ministère de mise en lumière du péché du monde. Notez chapitre 16, versets 8 à 12. Ce principe a donc de nombreuses implications qui nous permettent de mieux comprendre la réaction du monde à l'égard des chrétiens, comme l'a très clairement souligné Yves Charles Ryle. Ce n'est pas la faiblesse ou les inconséquences des chrétiens que le monde haït, mais c'est leur grâce. Un chrétien peut être persécuté sur son lieu de travail, tout simplement parce qu'il refuse de tromper un client. Pendant des années, un officier de police chrétien canadien a été privé de toute promotion, tout simplement parce qu'il refusait de prendre part aux beuveries de son supérieur. Il a fallu qu'un fonctionnaire encore beaucoup plus élevé dans la hiérarchie, apprennent tout cela pour que, en fin de compte, justice soit rendue. Ajoutons au crédit de ce chrétien que ce ne fut pas lui qui éventa l'injustice dont il était victime. Un chrétien qui travaillait dans un entrepôt, découvrant que des marchandises venues de Chine avaient été abîmées par leur livraison, a totalement refusé de signer un bordereau attestant que tout cela était arrivé à bon état. Il a été muté sans aucun ménagement dans un autre service. Ce traitement a quelque chose de choquant. Voyez-vous, on loue l'intégrité du chrétien quand elle est favorable à l'entreprise, mais on la méprise et on la déteste quand elle contrecarre les profits ou qu'elle nuit à la camaraderie. En terminant cette étude, chers amis, sachez que le simple fait que Jésus ait appelé ses disciples hors du monde, selon le chapitre 15, verset 19, cela a suffi à provoquer sa haine. les chrétiens ne constituent pas un groupe d'extraterrestres, un ensemble de gens d'essence supérieure, car par nature ils font partie intégrante du monde. Mais à cause de Jésus-Christ, ils ont laissé le monde derrière eux, ce qui déplaît totalement au monde. Les tricheurs qui cessent de tricher ne restera pas longtemps en bon terme avec les autres tricheurs. Les menteurs et les violeurs cesseront vite d'aimer celui des leurs, qui lui ne viole pas et qui lui refuse de mentir. Un matérialiste pur et dur qui renonce totalement au matérialisme, tout cela à cause de Jésus-Christ, il ne doit pas s'attendre à être encensé par ses anciens amis matérialistes. Le fait d'être choisi par Jésus-Christ à sortir du monde, cela ne peut que attirer l'opprobre du monde. Chers amis, le monde ne peut donc jamais supporter de voir que ses péchés sont mis en lumière. Chers amis, nous arrêtons ici et je voudrais juste vous dire quelque chose que le Seigneur m'a donné pour vous encourager, mais aussi pour votre propre édification. Écoutez bien. Les bras du Tout-Puissant vous protègent. Oui, les bras éternels vous reçoivent au fond de toutes vos épreuves. Cette promesse est pour ceux qui s'élèvent au-dessus des choses de la terre jusqu'à celles du royaume des cieux. Gardez-vous donc de vous laisser accabler par vos défaillances. Poursuivez votre route par la foi. Les nuages se dissiperont et le chemin deviendra plus facile. À chaque pas, le sentier sera un peu moins périlleux. Ainsi donc, poursuivez la course pour obtenir votre récompense. Soyez rigoureusement fidèles dans l'accomplissement des petits devoirs et votre succès sera certain. Est-ce que Jésus a eu des paroles de reproche autrefois pour l'un quelconque de ceux qu'il a guéri? Il renvoya guéri et libre le paralytique qui avait ruiné sa santé par ses péchés, et il n'a pas accablé de reproches la femme samaritaine près du puits quand il lui a dit qu'elle avait eu 5 maris et que celui avec lequel elle vivait à ce moment-là n'était pas son mari. À la femme qui a été surprise en délit d'adultère, enfin, il a déclaré, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. » Il ne lui demanda nullement de se charger du poids de sa culpabilité. Souvenez-vous de la grande parole qui a dit, ces 3 choses demeurent, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité. La foi caractérise votre attitude à l'égard de Jésus-Christ. La charité caractérise votre attitude à l'égard de vos frères. Mais tout aussi nécessaire est l'espérance qui vous oblige à croire que, pour finir, tout sera bien. Chers amis, nous n'avons plus le temps de faire une longue prière, mais sachez simplement, et soyez-en sûrs, Dieu vous aime, et moi, il est de mon devoir de vous aimer tous, et je vous serre dans mes bras, et je vous embrasse tous avec tout mon amour, et je vous dis, soyez bénis. À demain matin pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers amis.